is go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages. Cette semaine 39 de l'année 2025 sera sans doute à marquer d'une pierre blanche dans l'agenda du monde des livres en Anjou, tant le nombre de propositions est important. Comment alors une heure d'émission tous les 15 jours peut-elle rendre compte d'une telle profusion? Autant le dire tout de suite, en faisant des choix. Pour ce qui me concerne, et c'est l'esprit même de cette émission depuis maintenant 7 ans, c'est en portant mon attention sur l'entièreté du territoire et en donnant un avantage à celles et ceux qui prennent le risque de se lancer dans des aventures loin des capitales. Mais loin des capitales ne veut pas dire loin des exigences. On va le voir avec les invités du jour, Frédéric Germano, Jérémy Fabre et Antoine Mouton. Nous sommes au moment de cet enregistrement, à la veille de vos manifestations respectives. Jérémy Fabre et Antoine Mouton, c'est le festival Les Préférences, quatrième du nom je crois. Et Frédéric Germano, c'est l'International Poétique, première édition. Commençons par le festival Les Préférences. Bonjour Jérémy.
Bonjour Luc.
C'est la quatrième édition du festival ?
C'est la quatrième édition, effectivement.
C'est la quatrième édition du festival. Du fait du contexte économique, la réduction des subventions de la région, vous avez abordé ce quatrième épisode dans quel état ?
De façon assez surprenante, puisque dans un premier temps, il y a eu donc cette annonce. Donc on est parti sur une, forcément, logiquement, sur une réduction du nombre d'interventions, du nombre d'auteurs invités. Donc ce qui a été quand même quelque chose d'assez compliqué de revenir sur une parole donnée, sur des invitations lancées, donc d'être dans cette réduction là. Donc non pas de choix d'invitation, mais de choix de désinvitation, donc qui humainement est assez difficile. Et je remercie vraiment Antoine parce que c'était pas quelque chose de simple. Donc il y a eu cette première étape, et ensuite il y a eu autre chose pour nous à la Maison Julien Gracq, qui ne concerne pas véritablement cette édition-là, cette quatrième édition, ça a été de réfléchir à 2026-2027, et de se dire, bah, plutôt que de réduire, bah, on va essayer de tenter de l'annualiser, ce festival qui a lieu tous les 2 ans, en lui donnant la possibilité d'être présent tous les ans, ce qui est complètement contre-intuitif. Par rapport à une baisse de subvention, on s'est lancé ce défi-là, ce qui a permis de continuer sur une version qui est pas moins dense, pas moins importante, mais peut-être avec un peu moins d'invités, mais autant de tables rondes, de lectures, de rencontres, mais en se disant que ben, on serait là tous les ans maintenant.
Bien, la Maison Julien Gracq qui se la joue tête brûlée. Les Préférences, c'est un festival dont la direction artistique est confiée à une personnalité. Il y a eu Emmanuel Ruben, puis Gwenaëlle Bolivier. Cette année, c'est Antoine Mouton qui a été retenu. Qu'est-ce qui vous a séduit dans sa candidature ou dans son parcours d'écrivain ?
Alors, autant Emmanuel Ruben avait la direction artistique du festival Les Préférences en tant que directeur artistique de la Maison Julien Gracq, notamment, donc sur les 2 premières éditions, 2019 et en 2021. Et lorsque j'ai pris la direction en 2022, a été décidé avec le comité littéraire d'inviter un ancien résident de la Maison Gracq. Donc en 2023, Gwenaëlle Bolivier, et Antoine Mouton en 2025. Donc c'est un ancien résident que l'on a souhaité à qui on a souhaité donner une carte blanche sur cette grille de programmation. Ce qui nous a plu dans le travail d'Antoine, c'est à la fois la diversité des genres littéraires. Antoine reviendra dessus puisque je crois qu'il aime pas trop mettre dans des cases certaines productions littéraires. Donc on est vraiment sur cette pluralité, d'avoir aussi une autre couleur, une autre tonalité qui serait donnée par rapport au festival qui était tourné sur le voyage avec Gwenaëlle Bolivier. Là on est davantage sur peut-être l'introspection, peut-être la quelque chose de plus intime dans le travail, donc de vraiment d'avoir juste une autre couleur, une autre teinte. Mais comme il n'y avait pas de candidature, c'était vraiment une carte blanche qui était donnée. C'est-à-dire que c'était pas une orientation que l'on avait, c'était plein d'a priori. Et du coup, ben on espère que on a l'impression que nos a priori vont dans le bon sens. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment une carte blanche par rapport à la résidence qui a pu avoir lieu ici à la Maison Julien Gracq avec Antoine.
Antoine Mouton, nous, je vous avais accueilli dans l'émission il y a exactement 2 ans. C'était le 5 octobre. Autour de votre livre HKZ, le livre du revenir. On avait aussi d'ailleurs parlé de votre texte bizarroïde, étrange au titre que j'ai toujours pas compris, qui s'appelle Les Chevals Morts. Mais bon, ça c'est pas grave parce que j'avais dû vous poser la question à l'époque. Vous aviez dû certainement me répondre. Mais voilà, à chaque fois, je me heurte quand je regarde le titre de ce livre. Voilà, il y a quelque chose, ça passe pas, mais ça c'est pas grave. Hein. Comment vous avez appréhendé cette direction artistique ?
Ah ben, c'était la possibilité pour moi justement de réunir des personnes. J'en connais certaines et d'autres, je me contentais de les lire, qui ne travaillent pas toutes dans le même sens. Pour le même genre littéraire, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie que se mêlent toutes ces écritures, moi qui m'importe et que je considère uniquement comme des textes, bêtement, enfin c'est-à-dire que je lis jamais un texte parce que c'est de la poésie ou parce que c'est du théâtre ou parce que c'est du roman. Il se trouve que je lis ça et il y a peut-être un petit effort à faire pour lire du théâtre parce que les livres circulent un peu moins et donc il s'agit d'aller les chercher un peu plus, mais ça dépend, mais je voulais que tous ces genres-là se mettent à se parler un peu, soient réunis et pas compartimentés. C'est-à-dire que l'idée n'était pas de faire le samedi poésie, le dimanche roman et le vendredi théâtre, enfin c'est-à-dire que mettre ensemble des gens qui ne travaillent pas aux mêmes formes, mais qui ont pour dénominateur commun, avant tout, l'écriture.
C'était peut-être une envie que vous aviez, ou alors c'est une opportunité, le festival, de faire se réunir les gens comme ça.
J'avais jamais pensé faire la programmation de quoi que ce soit. Enfin, j'ai même hésité avant d'accepter parce que je savais pas si j'en étais vraiment capable, enfin dans le sens où je savais pas en fait, enfin j'ai réfléchi un peu et puis il y a vraiment eu l'envie en fait aussi de montrer un rapport à la lecture qui soit pas un rapport de je me suis dit que j'allais intervenir peut-être en tant qu'auteur mais en tant que lecteur, c'est-à-dire c'est avec le lecteur que je suis, c'est-à-dire qui vraiment traverse les livres, les maisons, qui s'intéressent aux maisons d'édition indépendantes aussi, enfin essentiellement. Je ne sais pas si c'est très réparti, mais je crois que c'est quand même plutôt des maisons d'édition indépendantes qui sont des auteurs et des autrices invités dans publiés dans des maisons d'édition indépendantes qui sont invités, mais pas seulement non plus. Enfin, c'est-à-dire l'idée n'était pas de fermer absolument tout. Au contraire, de renverser parfois des rapports de force. C'est-à-dire que je pense que je voulais pas que les romanciers et romancières soient dominantes dans le festival. Je voulais qu'ils soient là en tant que minorité, mais comme tout le monde.
On va le voir. Avant justement de voir ces questions-là, vous êtes un auteur qui est plutôt de l'intime, enfin du dedans. Enfin, votre écriture, c'est plutôt pas de l'introspection forcément, mais pour moi, un auteur du dedans, de l'intime, de soi. Et comment on sort de son travail d'écrivain tel que vous le pratiquez pour justement devenir directeur artistique ? Comment on fait ?
Ben, je sais pas si je travaille uniquement l'intime ou parce que. Il se trouve que je m'occupe pas mal de l'écriture des autres. Enfin, j'ai des fonctions d'enseignement dans des écoles, notamment une école de théâtre qui s'appelle l'ENSAT à Lyon, et puis une école d'art en espace public qui s'appelle la FEAR à Marseille, et où je suis les travaux des élèves, les travaux d'écriture. Enfin, et ça déjà, alors c'est pas exactement une programmation. mais c'est quand même s'efforcer de trouver, si ce n'est des relations, oui quand même, enfin des échos entre différents travaux. Comment les personnes d'une même promotion peuvent être amenées à travailler ensemble, trouver quelles peuvent être leur zone de possible dialogue. Et donc j'ai imaginé cette chose-là, sans élèves, avec des gens qui n'étudient que, enfin qui étudient hors cadre, disons. Mais voilà, oui, c'était cette idée-là, à peu près de cette façon-là.
En lisant l'introduction du programme, le texte d'introduction, vous avez les préférences, c'est un festival à connotation géographique, et vous posez la question de la géographie du livre en lui-même, en posant la question, en fait, de quoi le livre est-il le lieu ? Là, c'est presque une mise en abîme, là.
Oui, c'est-à-dire que c'est réel. Enfin, un livre, vous l'ouvrez et ça forme un coin. Donc, on a un coin avec nous tout le temps, un angle qu'on peut ouvrir dans lequel venir, pas forcément se réfugier, mais peut-être aussi s'engouffrer, s'aventurer, quelque chose à aller connaître. Et oui, et je crois que des choses ont lieu dans les livres. Moi, j'étais très très intéressé par cette chose-là que j'ai lu chez Marie-Josée Mondezin, qui le reprend de Derrida, la question du lieu est corrélée à l'expression avoir lieu. C'est-à-dire un lieu fait que quelque chose se passe. Et donc la question pour Derrida, c'est qui n'a pas lieu, et si quelqu'un n'a pas lieu, qu'est-ce qui n'a pas lieu alors? Et ça m'intéresse beaucoup, et je crois que les livres sont vraiment des espaces de d'utopie, des endroits où on peut inventer un lieu pour ce qui manque de lieu.
Alors, vous avez commencé à aborder un peu des noms comme ça. Le spectre est large, des invitations ne sont pas forcément que des auteurs, enfin, à proprement parler. Moi, je pense à la photographe Cécile Geneste. Je pense, vous venez de la citer, Marie-Josée Mondezin, qui est directrice de recherche au CNRS.
Alors, elle s'est décommandée. Mais disons qu'on est parti d'elle, et puis voilà, y aura des gens très bien à la place.
Alors, il y a aussi le cracheur de feu sonore, Antoine Boutte. Antoine Boutte. C'est important d'élargir le plus possible le spectre des possibles, comme ça.
Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les lectures vers lesquelles je vais, en fait. C'est-à-dire que j'aurais bien du mal à lire uniquement des romans, ou même uniquement des poèmes. Enfin, c'est-à-dire que, oui, ça, et c'est important et au sein d'un même livre, j'ai l'impression aussi que ces genres peuvent coexister dans les livres de Lucie Taïeb, notamment. Enfin, je pense au dernier, je crois, qui s'appelle La mer intérieure. C'est quand même, dont on va parler à Nantes, mercredi. Enfin, le mercredi, c'est un livre assez passionnant parce que c'est à la fois une enquête, il y a quelque chose qui est de l'ordre du poème qui arrive par moment, quelque chose du journal, d'une exploration intérieure, d'une documentation très très claire sur un lieu. Et ça, ça m'intéresse parce que je trouve que c'est comme ça que se compose la vie, en fait. En réalité, quand on écrit que un roman, je crois qu'on ment un petit peu. Quand on écrit que une fiction, en fait, c'est faux. Il y a toujours autre chose qui se cache à l'intérieur. Et j'aime bien les auteurs, les autrices qui font apparaître ces différentes formes qui composent, en fait, un même livre. Lucie Taïeb fait partie de ces personnes-là.
Ma question va sembler un peu comptable, mais je pense que, comme tout fait sens, cette question, je pense qu'elle a du sens. Dans cette sélection, il n'y a que 3 hommes.
Oui. Alors moi, j'ai pas vraiment compté, mais
moi j'ai compté.
À un moment, je me suis dit j'espère qu'on n'a pas invité que des hommes, et puis en fait, j'ai vu que non, vraiment pas.
Mais non, c'est assez. C'est assez surprenant. C'est assez. Pas surprenant. C'est dans un monde où effectivement souvent l'espace est réservé et déjà circonscrit par les hommes, être confronté à une opération, une manifestation qui donne de la place sans que vous vous en rendiez compte finalement. Vous vous en êtes pas rendu compte.
Je les ai pas invités en tant que femme. Je les ai invités en tant qu'autrice, quoi. Enfin,
oui. J'entends bien. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. C'est que c'est le genre n'était pas un préalable ou ni un prétexte ni quoi que ce soit. Mais c'est une observation que je fais. Et voilà, je trouvais que.
Mais vous savez, c'est aussi en fait c'est assez simple. Hein. Enfin, je veux dire, ça vient simplement de l'expérience de la vie littéraire et du milieu littéraire. Enfin, en fait, j'ai invité aussi des gens avec qui je m'entends bien. Et il se trouve que je m'entends mieux avec les femmes qu'avec les hommes dans ce milieu, qu'il y a quelque chose qui est très très vite. Enfin, voilà, il y a beaucoup moins de rapports de pouvoir et donc c'est plus simple.
Dans toutes les tables rondes s'articulent autour du titre le livre 2, le livre au saxifrage, de l'abolition des privilèges, de la déprise, des violences, des lignes d'air, des transformations. Qu'est-ce qu'a souhaité que ce soit décliné sous cette forme-là?
Alors c'est moi qui ai eu cette idée-là. Ça vient de Edmond Jabès, qui a écrit notamment le livre de l'hospitalité. Et j'ai vraiment repris le titre pour une des tables rondes entre Francesca Pollock et Laurence Nobécourt directement parce que justement, enfin c'était le lien vient vraiment de Derrida. Qu'est-ce qui, enfin voilà, avoir lieu, le lieu et avoir lieu. Et donc je me suis dit bah oui, avoir lieu, c'est la question de l'hospitalité. Et donc j'ai pensé à Edmond Jabès, j'ai relu Edmond Jabès et je me suis dit qu'on pouvait faire un lien là à partir de Jabès et inventer toutes sortes de livres. Le livre, alors vous dites l'abolition des privilèges et l'abolition des sortilèges, mais c'est magnifique. Mais ça va très bien.
Je suis ravi d'avoir fait cette contre-lecture. Moi, je trouve qu'elle est géniale finalement.
C'est parfait. Et donc on a imaginé, oui, c'est ça, c'est-à-dire les tables rondes comme des espaces, comme un livre partagé, comme un endroit où justement peuvent se relier des écritures différentes, deux ou trois écritures différentes, pour parler et pour que quelque chose d'une discussion, d'une parole, ait lieu à cet endroit-là. Et donc, que ce soit comme un livre, mais un livre hors du livre, un livre sans papier, quoi.
C'est la table ronde qui s'appelle le livre saxifrage.
Oui.
Donc là, déjà, un mot dont on n'est pas forcément familier. Qu'est-ce qui sera sur cette table ronde?
Alors, Sandrine Roche et Cécile Geneste. Cécile Geneste étant la photographe qui expose à la maison Julien Gracq des photographies.
Alors je recommande cette exposition qui est j'ai pas de mots en fait pour la définir, elle est pas étonnante, elle est démentielle, enfin elle nous pose des questions, elle pose des questions, les photos posent des questions parce qu'on elle nous oblige à, en fait ces photos nous obligent à regarder. Ça peut paraître bizarre de le formuler comme ça, mais quand moi je suis entré dans la salle des cartes, que j'ai vu ces grandes images, au début pour moi c'était des images, j'ai été obligé de me poser la question qu'est-ce que c'est que ces images, j'ai été obligé de m'approcher pour voir ce qu'étaient ces images, et elles sont oniriques, elles nous emportent, elles nous font rentrer dedans, enfin on rentre dedans, c'est assez... j'invite vraiment tout le monde à venir voir cette exposition, parce qu'elle est vraiment déconcertante. Cette édition travaille aussi la question de la langue. Vous avez choisi de travailler cette thématique-là, cet angle-là, de quelle manière?
L'idée était de donner à entendre des gens qui parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils écrivent, mais aussi de donner à entendre les écritures en tant que telles par les auteurs et les autrices qui vont lire leurs propres textes. Parce que là aussi, pendant les lectures, je crois, il y a quelque chose qu'on observe qui est le temps, en fait, qu'ont passé les gens, enfin les auteurs et les autrices, avec ces mots, avec ces phrases, avec ces syntaxes, avec ces ponctuations, avec toutes ces choses qu'ils ont choisies, avec lesquelles ils ont choisi de passer vraiment, en général, beaucoup de temps, qu'ils connaissent bien et qu'ils restituent à leur façon, mais comme une expérience physique, en fait. Enfin, c'est-à-dire que... et on invite des gens qui font de la performance, je pense à Selima Attalah-Chetaoui, Antoine Bout, vous l'avez cité aussi, mais qui sont connus pour ça, pour rendre ça spectaculaire. Mais moi, ça m'intéresse aussi sur des choses plus ténues, intimes ou fragiles, de voir. Enfin, je trouve qu'on voit aussi dans des lectures moins spectaculaires ce qu'il s'est passé entre une personne et les mots qu'elle a écrits.
Alors sur la question de la langue, on est obligé de parler de ce moment la lecture, enfin le travail, la représentation, je ne sais pas comment ça s'appelle, de Denis Lavant autour du texte de Pierre Bergougnou sur le texte Les Oiseaux, c'est ça ?
Oui.
Là, on est au cœur de la langue. Oui. S'il y a bien quelqu'un qui manipule, enfin qui travaille, pas manipule, qui travaille la langue, c'est bien Denis Lavant.
Oui, et puis, enfin, c'est pas un hasard qu'il écrive aussi. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment un rapport à ça, qui n'est pas seulement un rapport d'interprétation, qui est aussi un rapport de pratique, en fait.
Vous aimeriez insister sur quel moment de ce temps de littérature, voilà, qui vous tient à cœur, qui serait peut-être moins saisissable, mais qui vous semble important?
Eh ben, on pourrait parler, par exemple, d'une chose qu'on a dû inventer puisque donc Marie-Josée Montzin ne vient pas, et on a proposé à deux autrices de venir au MA à Ancenis, que deux autrices, Hélène Frédéric et Anna Dubosc. Merci. Et on a appelé ça, je crois, le livre des singularités, parce que Hélène Frédéric, elle a un métier qui est correctrice de presse. Et son prochain livre, qui s'appelle Lézarde, la lézarde étant un des termes de presse qui renvoie à quelque chose, je me rappelle plus exactement quoi, mais enfin c'est un des nombreux mots de vocabulaire de la presse, raconte par là qu'est-ce que c'est que de s'occuper vraiment en fait des phrases, des articles, de leur présentation, de leur mise en page. Et c'est, il y a une histoire politique de ça, puisque ça a été des pratiques enfin qui viennent vraiment des milieux anarchistes essentiellement, et que son père lui a transmis, lui étant autodidacte. Donc il y a la question de l'autodidaxie. On dit pas l'autodidactisme, enfin c'est elle qui m'a appris le mot récemment. On dit l'autodidaxie, que je trouve assez beau. Et chez Anna Dubosc, il y a vraiment ça, notamment dans le livre qu'elle a écrit qui s'appelle Kumiko, qui est un livre sur sa mère. Kumiko était une poétesse japonaise que Chris Marker avait vue au Japon, avait rencontré au Japon, dont il était tombé très amoureux. Il a fait un film qui s'appelle Le Mystère Kumiko. Kumiko est venue en France, a quitté Chris Marker et a vécu une vie d'une liberté absolument dingue. Et c'est sans doute cette liberté et cette autodidaxie qu'elle a transmise à Anna Dubosc, et dont Anna rend compte en fait dans son livre Kumiko. Elle raconte pas qui était sa mère c'est pas du tout une biographie, c'est pas elle va pas vanter les mérites de sa mère, d'ailleurs enfin la plupart du temps elle est un peu embêtée par sa mère plus qu'autre chose, mais elle raconte plutôt une relation, et une relation un peu extraordinaire, et les deux se posent cette question là de qu'est-ce qui compose une vie. Et elles ont des réponses à ça qui ne sont pas des réponses normatives. C'est pas juste le travail et les enfants. Enfin, pour Kumiko, c'était vraiment pas les enfants, visiblement. Mais voilà. Oui.
Bah, c'était bien d'éclairer ce moment-là, puisqu'il y a un changement de programme. Autant l'éclairer et en informer. Je vous remercie, Antoine Mouton, pour toutes ces apports-là. Jérémy, qu'est-ce qu'on doit apporter encore comme précision sur le festival ? Les dates ?
Les dates, du 23 au 28 septembre, Nantes, Angers, Oudon, Saint-Florent-le-Vieil, des lectures à pied, sur des tous, à vélo, sur des îles, voilà, pas mal de choses. Donc tout le programme est sur le site internet de la Maison Julien Gracq. La plupart des événements sont gratuits, et puis soyez curieux.
Ouais, c'est ce qu'on peut recommander.
Je pense que c'est, ouais.
C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. En plus, comme il fera un temps extraordinairement beau, c'est programmé comme ça.
Oui, donc on commande le soleil tous les ans.
Ben, bien sûr. Comme il fera beau. Merci, Jérémy Fabre. Avant de faire une pause musicale, je propose d'entendre une des autrices invitées, Phoebe Adji Marcos Clark, qui lit un court extrait de son roman Alien.
Elle vagabonde dans la forêt, un pétard éteint entre les doigts gourds. Ses pieds font craquer les feuilles mortes. La brume est toujours lourde et épaisse, et elle sait qu'elle pourrait sans doute se perdre à nouveau. Peut-être de façon irrémédiable cette fois. Mais elle a confiance dans la nécessité de sa mission. C'est ce qui va la protéger. D'ailleurs, elle est armée. Elle a sur elle une petite bombe de lacrymo qu'elle a achetée il y a longtemps, suite aux menaces d'un type cinglé qui s'était mis à la suivre, à la pister dans les rues, jour après jour. Elle a aussi dans sa poche un opinel replié qui grelotte contre son téléphone. Acier contre terre rare, plastique. Comme les choses sont étranges, polysémique. La lacrymo qui lui a brûlé la peau et les poumons tant de samedi, dorénavant nichée dans son sac comme talisman. L'extractivisme maudit qui aujourd'hui la protège. La violence qui de tant de manières a transformé sa vie. Tout autour d'elle, la forêt vibre et trémule. Elle sent des regards sur sa nuque, perçoit les faisceaux des pièges, des caméras qui se sont immiscés jusqu'ici, qui traquent à n'en plus finir. Devine les lacis des signaux, des courants électriques, des champs de force tout autour de son corps. Au loin, sourdement, elle entend l'usine ronfler. Elle n'est pas tout à fait à la recherche de Julien, mais elle est sûre qu'il se cache quelque part parmi les arbres, sanguinolent et bestial, en train de dévorer les entrailles d'un chevreuil ou d'un veau. Qu'est-ce qu'elle fera si elle le trouve? Elle ne sait pas encore. Elle va le confondre, le punir, là, sur le sol mousseux et humide, le renvoyer pour toujours vers des sphères extraterrestres qu'il semble vouloir retrouver à toute force, en détruisant parcelle par parcelle la terrestrialité qui l'entoure.
C'était Phoebe Adjimarcos-Clark qui sera présente à Angers pour une rencontre le jeudi 25 septembre à 14h30 à l'Institut Municipal. Et maintenant, une respiration musicale.
Le ciel pianote sur les ardoises, petite pagaille de phrases de pluie. Le quai nu joue-t-il le jazz de ce que j'ai, de ce que j'ai plus. Comme un poème sans une phrase dans la paume de la pluie. Je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. Petite pagaille de phrases de pluie. Ce mardi, pas de bleu, du gris. Un peu de nuit dans le jour clair. Je suis grise comme la pluie. Je reconnais ce petit air. Et le petit air me reconnaît. Dedans je suis, j'étais, je serai. La petite fille que j'étais. La petite vieille que je serai. Petite pagaille de phrases de pluie. Le quai nu joue-t-il le jazz de ce que j'ai, de ce que j'ai plus. Je suis la framboise ingénue, un cri rose dans le gris. Ce mardi, pas de bleu, mais je danse et la pluie. Les yeux dans les yeux, comme on sait danser la pluie. Que veux-tu que je fasse? Une inarticulable averse passe. Une inarticulable averse passe. Rouler grisaille, pétard mouillé. Ciel écorché. Ce mardi, pas de bleu.
C'était Gris Cornac qui chantait « Pluie ». Gris Cornac qui sera en concert le 3 octobre au Chabada. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez entre les pages l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Nous continuons cette rencontre, cette émission un peu particulière puisque on est je suis avec deux organisateurs de festival finalement, et on a choisi non pas un terrain neutre, on a choisi le terrain de la maison Julien Gracq pour des circonstances et certainement des opportunités, mais le temps s'y prêtait, ça donnait l'occasion d'une très belle randonnée, certes en voiture, mais très belle randonnée quand même. Et deuxième partie de cette émission avec Frédéric Germano. Bonjour Frédéric Germano.
Bonjour Luc.
Alors dans quelle aventure vous êtes lancé ? Organiser rien moins qu'une internationale poétique. Alors c'est né comment cette idée ?
Comme les idées et les projets un peu fous en fin de soirée après quelques verres, j'ai plus exactement en mémoire, mais voilà, on était quelques amis autour d'une table et on s'est dit et pourquoi on ferait pas un festival de poésie ? Après ça vient pas de nulle part non plus, donc je fais partie d'une association qui s'appelle La Miel. La Maison Internationale des Écritures et des Littératures, donc on a déjà un travail de fond.
Alors, j'insiste, dont le nom est impossible à trouver sur Internet, parce que chaque fois qu'on le tape sur Internet, on tombe sur des fabricants de miel. C'est terrible, ça, c'est à chaque fois.
Miel Poésie.
Voilà, faut mettre Miel Poésie.
Miel Poésie. Et donc, depuis déjà 10 ou 12 ans, on travaille sur le territoire, notamment de Rive-du-Loire en Anjou, autour de la poésie contemporaine. Avec des lectures, des rencontres, des résidences, des ateliers, etc. Donc voilà, c'était pas non plus une idée complètement saugrenue. Ça complète une activité qu'on avait déjà en fait.
J'avais reçu Pierre Soletti.
Voilà. Alors Pierre Soletti est notre dernier résident et parrain aussi de l'International Poétique avec Fabienne Ziatli, qui était la précédente résidente.
Alors, avec un jeu de mots à la Pierre Soletti, parrain et marin, enfin, parce qu'il peut pas s'empêcher de jouer avec les mots.
Ça.
Voilà. Et puis, c'est aussi concomitant n'est pas le bon terme, mais il y avait aussi cette manifestation très importante qui était le marché de la poésie de Béhar, et puis qui s'est arrêtée.
Hein, c'est ça, qui avait lieu initialement à Rochefort-sur-Loire, puis à Béhar, et qui s'est arrêté au bout de 10 ou 12 ans, ou 20 ans peut-être même.
C'était très long.
Donc il s'est passé 2 ou 3 ans sans manifestation poétique dans le coin. C'était aussi un peu l'idée de prendre la suite.
Et puis l'intérêt, c'est que les préférences, on est à l'ouest d'Angers. L'international politique, l'international poétique, on est plutôt sur le nord-est d'Angers, donc Angers faisant la fracture entre les deux. Voilà, c'est plutôt bien géographiquement, puisque les deux manifestations auront lieu malgré tout à la même date. Vous aviez lancé un appel aux bonnes volontés, il y a un an, grosso modo, je pense.
Oui, c'est ça, le projet est né à peu près il y a un an.
Ouais. Ça a eu un résultat ? Il y a eu des candidatures ?
Ah oui, on a constitué d'ailleurs, là je parle, mais c'est vraiment au nom d'une équipe de bénévoles, puisque dans l'association il n'y a que des bénévoles, et on a pas mal de personnes, alors du territoire de Rive-du-Loire-en-Anjou, mais pas que, qui se sont portées volontaires, qui sur l'organisation, qui sur les hébergements, la buvette, enfin toute cette organisation pratique. Et puis on a du coup aussi, parce que c'était quand même l'idée de bien ancrer ça sur le territoire, fait appel aux bonnes volontés pour les hébergements. On souhaitait que chaque poète et que chaque éditeur soit hébergé chez l'habitant. Et on a trouvé tous les habitants nécessaires pour ces hébergements, et quelques-uns qui seront aussi à Rochefort-sur-Loire, un peu en mémoire de ce qui se passait à l'époque. Par exemple, je pense à Isabelle Sauvage, qui est une maison qui vient depuis très longtemps, elle sera hébergée à Rochefort-sur-Loire.
J'imagine savoir qui pourrait l'héberger à Rochefort-sur-Loire. Vous avez placé cette première édition sous la bannière de la langue arabe. Pourquoi ce choix-là, une langue, et pourquoi la langue arabe ?
Alors, le choix d'une langue, je pense que ça vient, il me semble, d'une idée de Pierre Soletti, qui nous a dit que ce serait bien de donner une couleur à chaque édition. Puisqu'on était parti sur la poésie, et la poésie internationale, mais voilà, on a, c'était une, je trouve, une bonne idée de donner une spécificité à ce festival. Donc, une langue à l'honneur à chaque édition. Et la langue arabe, parce que déjà parce qu'il y a une très longue tradition poétique dans la langue arabe et dans les pays de langue arabe, parce qu'évidemment il y a une actualité politique aussi. Donc c'était ce double choix en fait de marquer l'entrée du festival sur dans le champ en fait de la littérature, voilà, avec cette langue en particulier.
Et un angle politique alors.
Et un angle politique.
Les préférences, 18 invités. Vous avez combien d'invités?
Alors, on a 6 poètes, une plasticienne et un musicien.
Et bien sûr, oui, le musicien, c'est l'homme de tous les combats du territoire. Hein, c'est Titi Robin.
C'est Titi Robin.
Voilà. Mmh. Qui est par ailleurs un très fin poète. Enfin, j'aime beaucoup, moi, son écriture. Je trouve qu'il a une écriture qui est... presque intriqué à sa réflexion musicale. Enfin, je trouve que voilà, j'apprécie beaucoup la manière dont il écrit ce qu'il écrit.
D'ailleurs, il est invité en tant que musicien, mais aussi en tant qu'écrivain. Il fera une double lecture musicale. En fait.
Le 28 septembre à 11h, il y aura un moment important, un passage de relais, c'est ça?
C'est ça.
Et c'est quoi ce passage de relais?
Alors, on va accueillir en résidence la poète Alban Gelée, qui vient passer donc quelques jours là sur le territoire, puis 6 semaines entre mars et avril. Et donc, comme Fabienne Ziatli et Pierre Soletti seront là, ils lui passeront le relais pour l'accueillir en résidence.
La poésie vue comme une course d'obstacles?
Non, plutôt comme passage de relais. Je préfère.
Qui d'autre? Alors, on a parlé de Titi Robin. Qui d'autre? Vous pouvez nous donner les noms des invités de cette édition?
Alors, donc, en plus de Fabienne Ziatli et Pierre Soletti, il y aura Soie de la Bise, qui est une poétesse qui vit dans le sud de la France, qui est originaire d'Algérie, qui est quand même assez connue, qui est aussi traductrice, enfin, qui a beaucoup publié. Fanny Garin, qui est une jeune poétesse, qui a publié 3 ou 4... recueil, qui a une écriture très intéressante. Et puis, on aura le dimanche après-midi, il y aura 2 lectures dessinées. Donc, Tariq Hamdan, qui est un poète d'origine palestinienne qui vit à Paris. Et Salpi Bagdasarian, qui est, elle, originaire de Syrie, et donc qui est réfugiée en France, qui a publié un livre chez aux Lisières. Et ils seront tous les deux accompagnés par Anouk Constant, qui est une plasticienne. Par ailleurs, coéditrice à l'Ardoise, une petite maison qu'on connaissait pas et qui se trouve sur les bords de Loire.
Vous avez souhaité que, comme au marché de la poésie, l'ancien marché de la poésie, comme le défunt marché de la poésie, que des éditeurs soient là, pas des grands éditeurs, des petites maisons d'édition. Il y aura qui de présent? C'est qui? Ce sera qui ces maisons d'édition?
Alors, on a vraiment fait le choix de maisons qui ne publient que de la poésie, parce qu'il y avait vraiment l'embarras du choix, notamment sur la région, d'inviter des éditeurs, mais on a fait le choix des éditeurs de poésie, donc ils viennent de toute la France. On peut citer, par exemple, côté jeunesse, il y a l'Aïe des Ours, qui vient de l'Est, il y a le Port à Jauny, le Centre de Création de Tinqueux, qui vient, et qui fera aussi des ateliers pour les enfants. Et puis, plus pour les adultes, Isabelle Sauvage, Les Lisières, qui ont beaucoup publié de poètes et poétesses de langue arabe. Il y aura Color Gang aussi, qui fait un beau travail plastique. L'Angle Mort, Les Blancs Volants, La Marge, qui eux sont du coin.
Alors eux, ils sont vraiment plus enjoints que ça, c'est pas possible.
Voilà. Et puis Potentic, qui est une petite maison qui avait repris à l'époque... Les publications de Julien Bosque au Phare du Coussex, voilà, qui sera là aussi.
Voilà, alors, on a des invités, on a les noms des maisons d'édition. Dans cette première internationale poétique, donc, table ronde, quelles thématiques on retrouve dans les tables rondes?
Alors, il y a une table ronde,
oui.
Qui sera justement autour des femmes poètes de langue arabe. puisqu'il y a vraiment, alors on parlait d'une dominance un peu féminine sur la programmation des préférences, mais dans la poésie contemporaine, il y a beaucoup de voix de femmes qui sont vraiment intéressantes, et dans la langue arabe en particulier, et des femmes qui ont des choses à dire aussi. Donc ça sera autour des poètes femmes de langue arabe, et ça sera animé par Dalila Morsni, qui est chercheure universitaire en sociologie linguistique. Voilà, elle animera. Il y aura donc Maud Leroy des éditions des Lisières. Il y aura Soin de la Bise. Et Fabienne Ziati, qui a une expérience aussi auprès de femmes qui vivent dans le Sahara.
Le festival, donc, il se déroule. On va aller aux questions pratiques. Il se déroule où ?
Alors, il se déroule à Rive du Loir en Anjou, ex-Villebec. Donc sur les bords du Loir.
Oh là, ex-Villebec, vous allez vexer quelqu'un. Je pense que vous allez vexer quelqu'un. Donc,
Rive du Loir en Anjou. Voilà. Sur les bords du Loir.
Oui.
Et c'est dans des locaux que la ville qui nous a beaucoup soutenus met à notre disposition. Mmh. Donc on aura toute la place, les locaux disponibles. On espère qu'il fera beau, donc il y aura des choses qui auront lieu en extérieur, mais on est abrité au cas où.
On connaît la générosité de la Maison Julien Gras, qui a commandé le soleil pour les préférences, et elle a...
Le partage entier.
Elle a convenu de le partager, oui. Enfin, de ne pas se l'approprier à elle tout entière. Donc, les dates, les prix, important, les tarifs, parce que j'imagine que tout ça doit coûter extrêmement cher.
Alors, on a choisi la gratuité pour tout, y compris les ateliers pour les enfants, parce que... c'est un principe, en fait, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble, mais c'est un choix.
Donc gratuité.
Les lectures, même la lecture concert du soir est gratuite aussi. Mmh.
Mais il est quand même prudent de réserver.
Il est prudent de réserver sur les ateliers, et sinon, c'est les premiers arrivés qui auront les places.
Mmh. Oui, mais
donc pas de réservation.
Pas de réservation. Alors là, on reconnaît bien les organisations, mais je crois que c'est vraiment important, c'est que vous nous avez donné un peu la naissance, enfin l'idée du projet, des gens qui se retrouvent, qui disent comme ça, qui partent sur une idée un peu comme ça, un peu folle, en disant et si on faisait. Et puis après, il y a la réalité de transformer le « si on faisait » en « on fait » et on y va. Et puis, toute une intendance, c'est toute une organisation. Là, vous êtes pas l'expérimentation, mais dans l'expérience des premières fois, en fait, avec toute la complexité des choses, gérer par exemple des réservations, j'imagine que c'est compliqué. Là, vous semblez avoir résolu toutes les problèmes d'intendance, c'est-à-dire l'hébergement des artistes, tout ça. Autre question, sans vouloir faire affront à l'opération que vous êtes en train de mettre en place, des bénévoles, petite structure. Alors j'ai l'air en insistant comme ça, ça prend un côté un peu presque désagréable. Mais bénévolat, beaucoup. Mais la place des auteurs là-dedans, est-ce que ça correspond au cahier des charges un peu de l'accueil des auteurs? Ils sont rémunérés, enfin ils sont reçus en tant qu'auteurs?
Ils sont reçus en tant qu'auteurs et ils sont tous rémunérés au tarif de la charte. C'est pareil, ça faisait partie des exigences, où on peut le faire, où on le fait pas. Mais en tout cas, les dossiers de subvention ont aussi été montés comme ça, avec des rémunérations conformes à la charte des auteurs. Donc tout le monde est rémunéré.
Donc il y a un budget, vous êtes tranquille, serein, là on est à une semaine de la manifestation
On n'a pas tout à fait l'équilibre. Ouais. Disons que l'association avait des réserves. Donc
la première édition aura lieu.
Oui. Et tout le monde sera payé. Ça, c'est une certitude.
Non, c'est important parce qu'on est sur un territoire. On en a dit deux mots avec Jérémy Fabre pour le Festival des Préférences et pour la Maison Julien Gracq. On est sur un territoire qui a été fragilisé horriblement dans le domaine de la culture. Enfin, où il y a eu des restrictions budgétaires fortes. Effectivement, voir des projets émerger comme ça. Alors, ce projet, il a émergé avant la naissance enfin, les informations qui sont venues de la région. Ça veut dire que, il y a des gens qui prennent des risques. La culture vit aussi avec des gens qui prennent des risques.
Et en fait, quand la décision de la région est tombée, on s'est vraiment dit, mais on a vraiment le mauvais œil sur nous.
Le mauvais karma.
La question s'est posée, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Et puis finalement, c'est aussi une forme de résistance et de militantisme, hein, de faire des choses. Et moi, ça me paraît vraiment nécessaire. Alors après, on va chercher aussi des subventions ailleurs. On s'est aussi posé des questions de savoir est-ce qu'on va chercher de l'argent privé ou pas. Voilà, tout ça, c'est des principes en fait qu'on a débattus collectivement. Et puis on s'est dit, bah allez, c'est peut-être aussi le moment en fait, finalement.
Alors, on l'a dit, c'est à Rive-de-Loire, Villevêque, je vais dire ça comme ça, hein. Rive-de-Loire en Anjou, je crois que c'est ça le nom.
Rive-du-Loire.
Rive-du-Loire en Anjou, Villevêque, c'est donc le 27 et 28 septembre. C'est une manifestation dont les activités, l'accueil est gratuit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à donner, des précisions à donner, qui vous tiendraient à cœur?
Nous, on aimerait vraiment qu'il y ait des jeunes et des enfants et des ados qui viennent. Alors, à la fois parce qu'on propose des ateliers, c'est quelque chose que faisaient pas, par exemple, les précédents festivals à Béhuard et Rochefort. Et puis parce qu'on aimerait vraiment qu'il y ait des jeunes qui viennent écouter, qui soient curieux, qui viennent, voilà. Ça, c'est vraiment l'appel qu'on peut lancer.
Alors, effectivement, rien que la rencontre avec Pierre Soletti peut être un peu ébouriffante, hein, si je peux utiliser
le
mot.
On espère.
Eh bien, je propose de faire comme pour le Festival des Préférences. Je vous propose qu'on écoute une des voix de l'international poétique. J'ai choisi Tariq Amdam, et pour respecter le thème, dans une version bilingue, l'autre voix, c'est celle de Sabine Venaruzzo.
Tariq. لست سيزيف ولا صخرته المتدحرجة لست المسيح ولا إكليله الشوكي لست غاندي ولا ملحة لست جيفارا ولا سيجارة لست حتى سوبرمان أخترق جبلا ولا تتغير تسريحة شعري أنا مجرد مشاهد أدخل عنوة إلى مسرحية مملة وعندما حاول الخروج منها سحبه الممثلون إلى الخشبة كان الأبطال والكومبرس يتبادلون الأدوار وأنا مرة أكون بطلا وأخرى كومبرسا كان قبل أن نتحول جميعا إلى ديكور ونفتح المجال لمشاهدين جدد يسحبون إلى الخشبة يلعبون ذات الأدوار التي يموت فيها الأبطال بدون جدوى ويتمرس فيها الكومبرس على شهادة الزور يلعبون ذات الأدوار لذات المسرحية الشاسعة التي تدعى تاريخ
Histoire. Je ne suis pas Sisyphe, ni son rocher roulant. Je ne suis pas le Christ, ni sa couronne d'épines. Je ne suis pas Gandhi, ni son sel. Je ne suis pas Guevara, ni son cigare. Je suis encore moins Superman qui traverse de part en part une montagne sans se décoiffer. Je suis un simple spectateur, entraîné de force à une pièce de théâtre ennuyeuse. Alors que je tentais de quitter la salle, les acteurs m'ont fait monter sur scène. Les héros et les comparses échangeraient leurs rôles, et moi, tantôt héros, tantôt comparses. Cela eut lieu avant que nous soyons tous changés en décor, et que nous cédions nos places à de nouveaux spectateurs qu'on faisait monter sur scène pour jouer les mêmes rôles, où les héros meurent en vain et les comparses s'exercent aux faux témoignages. Les mêmes rôles, dans la même grande pièce, intitulé l'histoire.
Voilà, cela donne une petite idée de ce que l'on pourra entendre pendant l'international poétique. Je vous remercie, Frédéric Germano.
Merci.
Le week-end, faudra que les gens puissent jongler parce que il y a des centres d'intérêt dans ces deux manifestations et c'est quand même réjouissant. Qu'un territoire qui s'est, comme je l'ai dit, trouvé quand même très brutalisé, réagit. En fait, n'accepte pas forcément les décisions, non pas forcément en contestant violemment, mais en disant ben non, on continue, on le fait parce que c'est important. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, nouvelle pause musicale.
On a passé des heures Se regarder dans le blanc des yeux, j'ai pas perdu mon temps, non. Je sentais ta présence même au téléphone. J'ai perdu contre l'horloge, malgré les piqûres d'hormones. Mais j'ai le sourire aux lèvres et je recommence. J'y pense et j'y repense à ce fameux moment où je t'ai soutenu au nom de tes enfants. Mais je m'effondre à peine, car je le sais au fond, ouais. Que je suis plus comme avant, non, que je suis béton. Que j'ouvre les yeux tous les matins, je prends des bains de silence et je m'attends. Comme si j'avais vu l'évidence, juste ma tête contre ta tête. Un souvenir heureux qui meurt avec moi, c'est ma requête. Laisser l'empreinte, ce qui nous élève mais qui est simple. Je suis content, je le ressens. J'ai connu la routine dans le bon sens, pas de mensonge, accélération. M'a obligé de quitter par la raison, c'est la rançon de l'affection. Tout allure passe, les secondes comme elle est beauté, elle me rallonge. Dès que je tombe et je recommence. J'ai pas perdu mon temps, non. J'ai pas perdu mon temps. Je sentais ta présence même au téléphone. J'ai perdu contre l'horloge, malgré les piqûres d'hormones. Et j'ai le sourire aux lèvres et je recommence. J'y pense et j'y repense. Je pense à nos enfants que j'ai imaginé et dessiné souvent. Mais je m'effondre à peine, car je le sais au fond.
C'était Nino Vella qui chantait Les Frères Siamois. Nino Vella, disparu brutalement il y a un an et dont la famille et les amis ont souhaité achever son projet d'album. Et vous êtes bien sur Radio G. L'émission s'achève. J'espère qu'elle vous donnera l'envie de vous ruer vers ces deux manifestations. Les organisatrices et organisateurs fabriquent un territoire vivant, on l'a entendu, en mettant l'exigence au centre de leurs propositions. C'est toujours rassurant de constater que la flamme culturelle ne s'éteint jamais. D'aucuns aimeraient tellement qu'il en aille autrement. C'est pourquoi vous bloquerez dès à présent sur vos agendas les dates des 11 et 12 octobre prochains pour aller vous rendre au Festival de la BD engagée. Encore un lieu du territoire, le Mets-sur-Èvre, où ça bouge. Du beau monde invité, dont rien moins que la secrétaire nationale de la CGT, Sophie Binet. Elle participera au débat intitulé « Les conditions de travail des intérimaires dans le monde ouvrier » autour de l'adaptation en BD par Julien Martinière de « À la ligne », le roman de Joseph Pontus. Au cours de l'émission, vous avez entendu Gris Cornac qui a chanté « Pluie » et Nino Vella qui a chanté « Les frères siamois ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 8 octobre à 17h avec deux invités. Daniel Bourion pour son roman « Le pays dont tu as marché la terre » et Bruno Luongo pour la fin de sa saga qui s'intitule « Le sang du désert ». Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis vous retrouverez l'ami Pierre Benoît pour le magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, 1.7 tout.